Ségal Lavoie, le midi.
Ici Myriam Ségal. Gérald Botts tente de sauver les fesses de Trudeau avec un témoignage qui vient contredire pas mal l'autre témoignage qui a précédé. Hausse des tarifs d'hydro, hausse des assurances de voiture. Il en profite pendant votre lâche. On profite des élections fédérales pour pousser sur le train grande fréquence Québec-Toronto. Et une loi contre l'obsolescence programmée, serait-ce possible?
FM 93, ça me parle. On développe les dossiers, les enjeux sociaux, la vie en général. FM 93, vous écoutez, c'est Ségal Lavoie, le midi.
Bonjour Luc Lavoie.
Salut Myriam.
As-tu écouté avec passion le témoignage un peu soporifique, je dois dire, de Gérald Botts? Là, on comprend pourquoi lui, il n'est pas devant le micro, mais derrière le politicien qui est devant le micro.
Oui, je l'ai écouté autant que j'ai pu. Là. J'arrive comme à la dernière minute pour l'émission parce que c'est ça que j'écoutais, oui, effectivement.
Deux, trois affaires. D'abord, il y a eu le petit scénario habituel là, où il va prêter serment. Non, il ne prête pas serment. Les libéraux n'ont pas voulu qu'il prête serment.
Du niaisage
qui ne les grandit pas particulièrement ni l'un ni l'autre. Ensuite, il dit qu'il a l'intention de dire rien de mal de Jody Wilson-Raybould. Mais qu'il n'a pas vécu les événements du tout de la même manière, qu'il n'a jamais été informé que la décision finale de Mme Wilson-Raybould au sujet de SNC-Lavalin et de l'accord de réparation, là, qui n'est pas une absolution, là, qui est un accord de réparation, il n'a jamais su que ça avait été pris définitivement le 16 septembre. Donc, tout ce qui a suivi, il dit « moi, je ne le savais pas qu'il a pensé qu'on faisait pression sur elle ». On voulait juste qu'elle aille chercher des avis extérieurs, parce qu'il y a 9000 jobs
exemple,
en jeu.
Il y avait, par exemple, recommandé qu'elle considère d'avoir recours au service de Beverly McLaughlin, qui a été juge en chef de la Cour suprême pendant 20 ans. Alors, il dit, je vois pas en quoi c'était de la pression que d'aller dire, pourriez-vous, et ce qu'aurait recommandé Mme McLaughlin, elle n'aurait pas été liée par ça, ça aurait été un avis externe. Mais il revenait toujours à la question de base, qui est, quand on est premier ministre du Canada, puis lui, ben, il travaillait avec le premier ministre du Canada, on doit se préoccuper de 9000 jobs qui s'en vont, puis d'un siège social qui s'en va.
Il a dit à plusieurs reprises, c'était sa décision, mais sa décision, 9000 Canadiens allaient devoir vivre avec.
C'est ça. Puis il a dit, si on n'avait pas tenu compte de cela dans notre réflexion, on n'aurait pas été des gens responsables. On se serait conduit de façon irresponsable.
Il a lu plusieurs textos qu'il a envoyé à Wilson-Raybould et vice-versa, dans lesquels jamais les mots SNC-Lavalin ne sont écrits. Elle a demandé elle-même une rencontre. Elle lui a dit 10 minutes passées, parce qu'il y avait 10 minutes. Elle a dit 10 minutes passées. Il dit que le repas a duré 2 heures, mais n'a pas porté essentiellement sur ce problème-là. En fait, qu'il n'a pas perçu qu'il y avait un problème. Et que la première nouvelle...
Il n'a pas perçu qu'il y avait un problème, mais l'affaire qui est importante ici, Myriam, je pense... c'est que la façon dont Mme Wilson-Raybould a rapporté ça, et je ne dis pas qu'elle a menti, tout est question de perspective, mais elle, ce que j'en avais retenu, c'est que Jerry Botts l'avait invité à manger au Château Laurier. Or, c'est pas ça qui est arrivé, c'est elle qui a sollicité cette rencontre-là, puis il a même parlé des sujets qui avaient été soulevés, tel sujet, dans le cas des Autochtones, il y avait divers sujets que... Puis, il a été rapidement mentionné, cette affaire-là, par elle, pas par lui.
Oui. Il y a tout le remaniement ministériel où là, c'est un peu plus compliqué. Parce que lui, il dit, regarde, le remaniement ministériel, là, si c'était pas de la démission de Bryson, Wilson-Raybould restait à la justice. Mais il fallait qu'on mette Jane Philpott au Conseil du Trésor. On avait besoin que ce soit pas juste du Toronto qui occupe les postes clés, donc on avait besoin de mettre Lametti à un endroit intéressant. Et elle, on lui a offert le ministère des Affaires autochtones, et elle a dit non. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée aux anciens combattants. Et je comprends qu'elle ait dit non, parce que c'est un piège, là. Elle est elle-même autochtone, issue d'une nation qui s'oppose à Trans Mountain.
Elle est une chef. Elle est la fille d'un chef et une chef elle-même.
Alors, la mettre aux affaires autochtones, ça la mettait c'est un piège à ours large de même. Il n'a pas l'air de s'en rendre compte.
Ça, c'est autre chose. Puis c'est une discussion politique valable. C'est une discussion politique légitime. Mais le fait est que si les faits sont ceux qu'a rapporté Butts, parce que même si tu dis, et tu as raison de le dire, qu'il est soporifique, il est assez crédible, merci. Hein, je veux dire, il arrive telle date, voici le texto, voici ce que j'ai répondu, voici ce qu'elle m'a répondu, voici ce qui est arrivé, qui a participé à ça, pourquoi, sur quelle base. Écoute, il était au moins aussi crédible qu'elle.
Mais moi, je me demande, Luc, si ce discours-là, l'essentiel, en tout cas, sur, notamment sur les 9000 jobs, c'est pas Trudeau qui devrait le tenir depuis déjà des semaines?
Ben là, on est dans le rattrapage, tu comprends? Le gestionnaire de crise va te dire, écoute, j'aimerais ça gérer les faits tels qu'ils auraient dû se présenter, mais c'est pas ça. On gère les faits comme ils se présentent.
OK. Oui, as-tu l'impression... Oui, je veux savoir quelle est la note tu lui donnes, et as-tu l'impression que la crise vient de s'arrêter avec son témoignage?
Ah, mon Dieu, non. Ah, ben évidemment pas. On est rendu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin. La dynamique s'est complètement emportée. Et là, la rumeur, c'est que Trudeau s'apprêterait à faire une sortie, comme on a dit. Mmh. Moi, je pense qu'il aurait dû la faire il y a bien longtemps. Il aurait dû la faire l'été prochain, quand ils ont commencé... L'été passé, pardon, quand ils ont commencé à songer à ce dossier-là. Mais là, il paraît qu'il s'apprêterait à faire preuve de contrition. Je l'ai écrit sur ma page Facebook, je le répète. Le problème dans ce dossier-là, c'est un problème de leadership.
Ouais.
On a l'impression d'avoir un petit gars en culotte courte perdu dans un monde de grands. Et là, s'il s'en vient, puis qu'il prend une position de contrition, on était trop loin, vous savez, j'ai déçu les Canadiens, il est mort. Les gens vont regarder ça, vont dire, c'est qui ce gars-là?
Il s'est excusé aux Amérindiens, aux Inuits, aux Suifs, aux Sikhs, aux Juifs, à Omar Khadr, aux LGBTQ2 et à Jody Wilson-Raybould. Ça commence à faire beaucoup d'excuses pour peu d'actions.
Ouais, puis un peu plus, puis il s'excusait auprès de Jane Philpott en disant, ben, je suis un peu déçu de sa décision, mais vous savez, je la respecte. Il n'y a pas personne sur la terre qui a cru ça. Le jour où ça y est arrivé d'en face, il avait envie d'exprimer son respect. Ben voyons donc, M. Trudeau, prenez-nous pas des cocombes. Hey. Vous n'aviez pas envie d'exprimer votre respect, vous aviez envie de dire que vous étiez en temps.
Luc, passons à un sujet dramatique, important. Tu sais comme c'est difficile pour un enfant quand il se retrouve dans une séparation de ses parents. Ça peut être très difficile, la garde partagée.
Ça peut être très, très traumatisant. Oui.
Et il y a actuellement deux êtres qui sont en garde partagée sans le savoir. Les deux chevreuils du centre Vidéotron.
De la place Jean Béliveau.
Jean-Simon Buis a découvert qu'on va investir 500 000 $ pour un agent de garda pour surveiller les chevreuils et les statues. Bon, Jean-Simon, la suite, c'est quoi?
Oui, la suite, Luc et Myriam, effectivement, tu l'as bien. Puis d'abord, il va falloir dire trois êtres parce que ça comprend également Jean Béliveau en forme anamorphique. Donc, les deux cerfs ainsi que Jean Béliveau sont maintenant en garde partagée. Vous vous rappelez la semaine dernière qu'on avait dévoilé, comme tu le disais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, présence d'un garda dévolu à la surveillance des statues. Eh bien, depuis cette semaine, les œuvres d'art de la place Jean Béliveau sont surveillées 12 heures sur 24 par la firme Garda et 12 heures sur 24 par les employés d'Exposité.
Oui, mais les employés d'Exposité, on nous a dit qu'ils n'étaient pas compétents pour faire ça.
Oui, parce que la ville...
On leur confie nos enfants.
La Ville de Québec m'avait répondu la semaine dernière que les employés d'Exposité, je cite, sont dédiés à l'opération technique du site et des immeubles et qu'ils n'ont pas le mandat de surveillance et ne sont pas formés comme agents de sécurité.
Donc, ils peuvent pas se...
Ils les ont formés vite.
Ça nous coûte combien de moins?
C'est à peu près, Myriam, c'est à peu près le même type de formation que les gens qui conduisent des déneigeuses à Montréal.
C'est ça.
Mais dans les faits...
On fait ça de même, puis ben, on va y amuse-toi.
Ah ouais, par là. Mon père faisait la même chose, mais je vais être aussi bon que lui. Mon père était bon.
Dans les faits, on ne sauvera pas exactement la moitié, parce que Vincent Dufresne, vous savez que le maire Labeaume nous avait renvoyé au conseiller Vincent Dufresne, qui est également à la charge, d'Exposité. Et Vincent Dufresne expliquait que le contrat inclut d'autres choses, de l'événementiel, des mandats sécurité ailleurs. Donc, on ne sauvera pas exactement la moitié, mais dans le cas dans ce cas-ci, la garde partagée va certainement nous faire quand même économiser quelques dollars.
Okay. Est-ce qu'un juge qui a sanctifié cette affaire-là, qui a approuvé le type de garde partagée?
Est-ce qu'il y aura un grief?
Jean-Simon,
est-ce qu'il y aura
Jean-Simon, j'adore ton scoop. C'est drôle, ça n'a pas de bon sens.
Mais Vincent Dufresne, tu
la garde partagée des chevreuils. puis du grand Jean Béliveau.
Oui, on lui a parlé. C'est Jonathan Bernard qui a fini par réussir à lui parler en marge du conseil municipal. Essentiellement, ce qu'il disait, c'est que c'était très important la sécurité dans le cas de lieux qui n'avaient pas encore été, dont la population ne s'était pas encore appropriée, comme dans le cas du...
Ah, c'est de notre faute, parce qu'on y va pas assez souvent. C'est pour ça qu'on est obligé de payer 700 000.
C'est ce qu'il a mentionné. Il a indiqué, comme je vous le disais, que le contrat, ça comprenait d'autres affaires. Quand on lui a demandé s'il y avait des caméras, il n'a pas voulu nous répondre oui ou non. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'il y avait des équipements de sécurité qu'il préférait ne pas divulguer. Des pièges à ours.
Peut-être qu'il y a des drones. Jean-Simon, vérifie. Peut-être qu'ils ont des drones qui passent au-dessus en temps.
Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens qui étaient incompétents la semaine passée pour surveiller les chevreuils et Jean Béliveau le sont devenus subitement cette semaine. Pour qui ils nous prennent?
Puis, quand ils finissent leur quart de travail, ils vont construire une déneigeuse. Ils vont conduire une déneigeuse.
Mais pour qui ils nous prennent?
Non, j'adore ça. Jean-Simon, c'est un des meilleurs scoops de l'année. On est rendu avec nos statuts en garde partagée.
Ça va nous coûter 300 000 au lieu de 500 000 par année.
Réjouissons-nous, mesdames et messieurs.
Ajoutons que c'est de notre faute parce que nous ne nous sommes pas encore appropriés la place de l'économie.
C'est ça, dépêchez-vous. Allez vous approprier la place de l'économie. Puis si ça vous tente d'arrêter au restaurant en passant, ben prenez un taxi parce qu'il n'y en a pas dans le coin.
Alors, il y a quelqu'un qui me dit, attention, vous ne pouvez plus parler des parents. Là. C'est le parent 1 et le parent 2. On ne peut plus dire le père et la mère.
C'est vrai.
Ça fait que le parent 1, c'est Garda, c'est la nuit. Puis le parent 2, ce sont les gardiens d'exposité qui n'étaient pas compétents il y a 2 semaines, mais qui le sont devenus subitement.
Ben oui, ça va vite, les formations, quand c'est le temps. J'adore ça.
C'est de toute beauté. C'est de toute beauté, tu sais, mais... Et ils ne nous ont toujours pas répondu à... Avant d'engager un garda pour surveiller au cas où que les chevreuils se fassent taguer, là, combien ça coûterait d'engager Calinette pour nettoyer les tags?
Ben, t'as juste allé demander à la SAQ. Ils ont engagé Calinette pour nettoyer les cochonneries des syndiqués. Alors, la SAQ, le jour où ils vont accepter de nous parler, vont nous dire ce que ça coûterait de nettoyer une statue.
Et s'il y a des caméras, parce que ce que M. Dufresne semble dire, c'est qu'il y a des équipements de sécurité dont il ne peut pas révéler la teneur. Alors, ça.
Oh!
S'il y a des caméras, ne fût-ce que des caméras comme ce que les chasseurs achètent, ça leur coûte environ 125$, là. Ce sont des caméras qui sont à détecteur de mouvement. Autrement dit, la nuit, si quelqu'un bouge près de la statue, pouf, il y a un écran qui allume, puis là, ça fait bip, 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 bip.
Puis là, le gardien part en courant avec sa matraque, puis bading, bading, on règle le cas.
Alors, s'il y a des caméras...
Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Non, regarde, Myriam, ce qui va arriver, qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je suis en train de m'approprier la place Jean Béliveau.
Ah, ben c'est correct, d'abord, parce que là...
OK! C'est ce que souhaite notre équipe. Notre mère, mon labo.
Ton labo. Ton labo.
Mon labo. As-tu demandé à ton gosselin qu'est-ce qu'il en pense?
Je suis sûr qu'il va dire que c'est une folie, là, mais comme il n'est pas en position pour l'arrêter, bon. Mais tu sais, c'est tellement...
C'est ton homme. C'est ton homme, sois fidèle.
Ça me donne tellement l'impression qu'à Québec, on a de l'argent. Regarde, là, on a commandé du mobilier urbain. C'est pas des bancs publics, c'est du mobilier urbain. Pour la place Jean Béliveau. Puis là, il va falloir rajouter un deuxième garda parce que le mobilier urbain peut pas être surveillé en même temps que les chevreuils.
C'est clair. C'est clair. Ils ont juste 2 yeux, ces gardiens-là. Le drone. Je songerai au drone. J'en ai un miniature, mais il prend pas d'image. Je serais prêt à leur prêter. C'est un beau petit drone vole au-dessus.
Mais tu sais, c'est ça, là. S'il nous disait, bon, ben regarde, on n'a pas encore installé les caméras, on les installe, c'est temporaire. Bon, je comprendrais. Mais, ici, on vous le dit pas ce qu'on a d'autre, mais là, on est obligé. Puis, l'incompétence, ça s'est corrigé en dedans d'une semaine. Là, j'ai hâte de voir s'il va y avoir un grief de la part des employés d'Exposité, parce que la ville elle-même nous a dit que ça faisait pas partie de leur tâche.
Ils doivent être payés à temps double et demi ou quelque chose de même. Écoute, ces statues-là, quand ça se met à vouloir se sauver, là, imagine les chevreuils bien choqués, ça part. Comment est-ce que tu fais pour les rattraper?
Il y en a un de deux qui peut pas y pogner dans la glace.
y a le cœur chaud, ça va fondre.
Luc, il y a une autre histoire syndicale bizarre. Les journaux nous expliquent que la ville de Montréal est allée jusqu'en cour d'appel et a dépensé 40 000 $ d'avocats pour essayer de congédier un gars qui a un dossier disciplinaire long comme le bras. Il y a quoi? Il y a une vingtaine d'infractions disciplinaires à son dossier. Oui. Il a été pincé à conduire un équipement alors qu'il venait de fumer un joint. Il y a un problème d'alcool majeur. Bref.
C'est ça. C'est un alcoolique. C'est un ivrogne.
Il a commis.
En fait, un typique col bleu de Montréal.
Pas si typique que ça parce que la ville l'a quand même congédié. Et la cour, le tribunal d'arbitrage, la Cour supérieure et la Cour d'appel ont toutes les trois donné tort à la ville. Les trois. Et Manuel Montero est donc réembauché par la ville. On lui reverse les 2 ans de salaire dont on l'a privé. Puis on lui donne, ça va l'aider à boire, et on lui donne en plus, on lui donne 8 jours, de 3 fois 8 jours de suspension pour sa punition. Mais, tu sais, je me dis, c'est pas le tribunal, ça se peut pas que 3 tribunaux soient dans le champ d'affilée. J'ai été lire le dernier jugement. Le problème, là, c'est que la ville a accumulé des infractions. Puis qu'à un moment donné, en 2011, ils ont dit, c'est ton dernier avertissement, après ça, on te congédie. Puis là, quand il est arrivé 2 autres infractions, la ville a rien fait. Autrement dit, ce que les tribunaux disent, c'est, si tu avais fait quelque chose, on aurait été dans le système de gradation des sentences.
Normal, oui.
T'as une lettre à ton dossier, t'as une suspension d'une journée, t'as une suspension de 8 jours, t'as une suspension de 15 jours, puis ensuite, t'es congédié. Là, on était dans la progression normale.
Ensuite, t'as un coup de pied au cul. Ensuite, c'est le coup de pied au cul.
C'est ça. Mais comme la ville elle-même a arrêté de sanctionner ce gars-là, l'arbitre et les 2 autres tribunaux après lui ont dit, vous avez remis le compteur à zéro. Fallait repartir à zéro la lettre, la première suspension, la deuxième suspension, etc. Vous l'avez pas faite. Donc, vous avez exagéré en congédiant ce gars-là pour la 2e infraction après que vous ayez parti son compteur à zéro. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés. En fait, là, si j'étais Valérie Plante aujourd'hui, je congédierais mon directeur des ressources humaines.
J'aurais tendance à regarder dans cette direction-là, en effet.
Parce que
je veux dire, la fonction publique montréalaise au niveau municipal, c'est une catastrophe incroyable. Et l'école bleue, ça ressemble plus à une organisation mafieuse qu'à un syndicat. Là.
Mais là, il y a la preuve d'alcoolisme aussi. Là-dessus, le tribunal finit par prendre une conclusion qui est pas pire, mais écoute... L'arbitre vient à la conclusion que M. Montero avait une dépendance à l'alcool et ce, à la connaissance de son employeur lorsqu'il a été congédié en décembre 2012. L'arbitre conclut qu'en raison de cette maladie, M. Montero avait un handicap qui obligeait la ville, conformément à son devoir d'accommodement, d'avoir recours à un traitement plutôt qu'à des mesures disciplinaires. Il conduit chaud une chenillette. Il faut l'accompagner et l'accommoder. C'est ça que l'arbitre conclut.
Ce qu'on appelle les accommodements raisonnables.
C'est ça. Puis là, le juge finit par dire, écoute, vous avez pas fait la preuve que la ville le savait, puis vous avez pas fait la preuve qu'il l'avait démontré à la ville. Ça fait que c'est correct. L'arbitre l'oblige à se soumettre à des tests de dépistage après son retour au travail, puis c'est sa responsabilité de se faire soigner. Mais tu sais, on est rendu que si t'as un alcoolique qui conduit des machines, c'est toi l'employeur qui est responsable de son alcoolisme.
En état d'ébriété.
Oui, c'est toi qui es responsable de son alcoolisme. Parce que c'est une maladie.
ça s'est attrapé. Il a attrapé ça dans la saison des grippes. Il y en a qui attrapent l'influenza, puis il y en a d'autres qui attrapent l'alcoolisme.
Il y a des affaires assez spéciales dans ce jugement-là. Mais
l'alcoolisme il a attrapé un microbe.
Ouais. Mais à un moment donné, lui, il est allé en cure fermée de son propre chef, le monsieur Montero. Okay?
Ouais.
Et il dit, mon employeur le savait, puisque mon syndicat lui a dit que j'étais parti en cure fermée. Donc, il savait que j'étais alcoolique, donc il devait m'accommoder quand je reviens. Et là, le juge a dit, attends un peu, là, une lettre d'une maison de désintox, ça signifie pas que t'as été diagnostiqué puis que ton employeur est au courant de ton état, là. Mais ça veut dire que si le gars l'avait écrit, avait fourni un papier de médecin comme quoi je suis alcoolique, là, ça devient le problème de son employeur de le faire soigner, non plus son problème à lui.
de l'accompagner, Myriam. Le mot, c'est accompagner.
Accommoder, qui dit.
Important, les mots.
Accommoder.
Ah, il y a des accommodements. Mais les accommodements raisonnables, on est contre ça.
Oui, mais dans ce cas-là, je dois dire que oui.
Ça. Ça a commencé à Hérouville, on est contre ça. Nous autres.
C'est ça.
Nous autres, là.
Oui. Ben,
nous autres.
Ben, là, t'as un accommodement qui me semble déraisonnable. Ou là, la personne qui est alcoolique est complètement déresponsabilisée.
Le fardeau de la preuve est complètement inversé, oui.
Mais oui. Tu vois, moi, je m'attendais à tomber sur une patente dans le genre de ce qu'on trouve, par exemple, dans les syndicats d'enseignants. Là. Les dossiers disciplinaires des enseignants retombent à zéro à tous les ans. Ça fait que si un enseignant ne fait pas une grosse gaffe, deux, trois grosses gaffes dans la même année, il ne pourra jamais être congédié.
C'est ça. Alors, fais ta gaffe, choisis-la, assure-toi que tu vas avoir du plaisir en la faisant, puis attends un an.
C'est ça.
Hein?
C'est ça. Alors, c'est le problème, c'est qu'il y a des conventions collectives, puis il y en a qui resettent le dossier disciplinaire au 6 mois. Au bout de 6 mois, si t'as pas refait de gaffe, ton dossier disciplinaire est effacé.
C'est épouvantable qu'on ait donné des clauses pareilles à des employés. C'est épouvantable. C'est toujours dans le secteur public. C'est ingérable. Ça n'a pas de bon sens.
Me dit un auditeur, si un enfant tue si le gars tue un enfant parce qu'il est chaud au volant de sa chenillette, c'est à faute de la ville qu'il l'a pas suffisamment
accompagné.
Accommodé.
Accommodé, excuse-moi.
Et l'alcoolisme est considéré comme une maladie depuis des années selon Santé Canada. Oui, je comprends. Mais ta première responsabilité quand tu as une maladie, c'est de te soigner.
Oui.
C'est de te soigner toi. Si j'ai la grippe, là, c'est pas mon employeur qui doit aller voir le médecin, c'est moi.
Disons, la différence entre la rougeole puis l'alcoolisme, c'est que la rougeole, tu ne l'attrapes pas de la même façon. L'alcoolisme, tu as quelque chose à voir avec ta maladie.
Il est 11h22 minutes.